RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h02, vous êtes dans la deuxième heure d'ici C'est Willy jusqu'à 20h. Toujours avec François Pinet et Jean-Louis Tour.
Oui, mais on l'accueille aussi.
On a du renfort.
Ludo Bragnac et Lionel Charbonnier. Bonsoir messieurs.
Salut tout ce monde. Ah, je suis un peu perturbé, hein, les amis.
Pourquoi? Ah, Lino, il est arrivé d'un coup, là. Il est...
Ah ouais, là, bah, je viens de traverser Paris.
Sous la pluie.
D'est en ouest. Je peux vous dire
en
une 20 chose.
Minutes.
C'est que si le paradis sur Terre, il est pas à Paris.
Ah ouais, c'est là, sûr. Voilà.
Non? Oh, l'enfer.
Ah ouais, à ce point-là?
Les bouchons,
ça
la pluie.
Ça.
Ah, toi aussi, ça te fait ça, Ludo?
Ah ouais. Putain, c'est. Venez habiter à Lille, on est mieux, hein.
Ah oui, pour nous parler de Lille. Non, mais il est fou, lui. Je crois qu'il n'avait pas une ville du sud où il fait tout le temps beau.
Bon, on peut aller à Auxerre aussi. Hein, Lionel?
Ouais, il fait pas tout le temps beau, mais au moins, il n'y a pas de bouchons. Enfin, si, il y a des bouchons, mais de Chablis.
Alors, Jean-Louis, on va parler de Saint-Étienne.
Oui.
Bah, bien sûr, de Jean-Louis Gasset. Mais aussi des Anglais.
Oui, voilà, des Anglais.
Vraiment, c'est même plus les grands gagnants de ces Coupes d'Europe. C'est, voilà, là, oui. Cette année, ils ont écrasé tout le monde.
Deux finales 100% anglaises. Est-ce révélateur d'une vraie suprématie ou l'histoire seulement d'une saison? On posera la question à Julien Laurence, notre correspondant en Angleterre. À 19h30, minute charbonnier sur la fin de l'alternance des gardiens au PSG, annonce de Thomas Tuchel aujourd'hui. Mais tout de suite, on se concentre sur la course au podium.
RMC.
Un bon centre pour Trezeguet.
Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane.
Oh, Zizou.
De la tête et la claquette.
Oh, Zizou.
Willy contre-attaque.
On a retrouvé un centre de Willy, voilà.
Ouais, mais
qui aurait pu être décisif.
Quel centre?
Ah ouais. C'est le centre qui fait tout sur cette action.
Bien sûr.
Non, c'est le centre, c'est une partie de l'action, tout simplement.
Oh, il est pas rigolo celui-là.
Mais bah non, c'est
la finale du monde, bien sûr, en 2006.
Hein. Et vous avez du mal à en trouver un ou quoi?
J'aime pas ça.
Oui, on a du mal à trouver un centre réussi, Charbon, t'as raison.
De qui?
Ah, bah de toi. Non, on rigole, tout le monde savait que c'était revenu.
Tu as changé le cours de l'histoire, Willy.
Ah ouais. Tu l'as peut-être raté un peu plus,
doublé de Zidane, était champion du monde.
Bah voilà.
S'il arrivait un peu différemment, ouais, le ballon,
tu vois.
Tu veux
qu'il arrive,
comment? Il n'y avait pas d'angle, il restait que celui-là comme angle pour faire le centre, donc
Peut-être moins fort, je sais pas, il aurait pu la contrôler.
Ouais, moins fort, il le fait une tête des 18 mètres, tu peux pas lui mettre juste une pichenette, il faut quand même lui mettre un peu de force.
T'as tiré un peu au petit bonheur.
Non, il aurait fallu couper les mains à Buffon ou... Voilà, ah, je sais pas.
C'est la tête de Zidane, bien sûr, en prolongation.
C'est quoi la force de qu'on a eu de jouer avec Zizou, c'est que même quand on mettait des merdes, on avait l'impression de lui donner des caviars.
Oh, bah, c'est gentil pour Willy.
Non, mais moi le premier, hein. Moi le premier, je peux te dire. Hein. Un jour, je lui fais une relance, je te jure, je me déchire. Il attend, en fin de compte, de la boulette que j'y avais donnée, il en a fait un caviar parce qu'il a fait, il a attendu que le mec dézone parce que le mec, tellement j'ai mal relancé, tu vois, il a dézoné pour essayer, oui. Il s'est dit, bah, la balle est pour moi. Et Zizou a attendu le dernier moment, il a fait un 1-2 comme ça. Et il m'a regardé, il m'a fait bien jouer. J'ai fait, ouais, ouais. Régale-toi.
Ah ouais, oui, ça fait la même.
C'est vrai, Lionel, quand tu dégageais, on disait qu'il y avait de la neige sur le ballon. C'est vrai ou pas?
Non, ça risque pas. J'étais l'un des premiers à dégager, tu sais, avec cette reprise de volée un petit peu là sur le côté.
Ah oui,
ouais, il se fait mal. Mais tu sais qu'il y en a plein, d'ailleurs, il y en a plein qui essayent encore et qui n'y arrivent toujours pas.
Ça se fait plus mais trop, c'est pas facile, hein.
Tu vois, Ludo, si tu avais joué avec Zidane, toutes tes passes ratées là, ça aurait été.
Et tu sais que j'en ai raté un paquet, hein.
Non, mais dis pas ça.
Mais oui, arrêtez de vous dévaloriser sur vos carrières. Bon, Willy, il a pas du tout fait. Hein. Il nous parlait que de ses entrées réussies, mais ne vous dévalorisez pas. Même toi,
moment...
Lionel, il y avait des belles relances.
Mais t'es vraiment, un menteur, Jean-Louis.
Non, pas du tout.
T'es un menteur.
Non, c'est fou.
T'es un menteur.
Bon, on y va.
Justement, avant l'émission, d'accord. On était dans le couloir, tu me parlais, mais tu me disais, mais qu'est-ce que j'aime ton humilité, Willy. Tu fais jamais référence à toi. En fait, t'es le plus beau, t'es le plus fort.
Bien sûr.
Bah, tu disais plein de trucs comme ça, et maintenant,
c'est Antoine Varnier, le producteur qui te parlait.
Ah, c'était Antoine qui me disait ça. Ah, mince.
Bon, Antoine. On y va sur le sujet. On y va. Donc, sur Saint-Étienne. Qui tentera ce soir de mettre la pression sur Lyon lors de la réception de Montpellier pour le retour de la Ligue 1 ce soir. On sera à Geoffroy Guichard tout à l'heure avec Édouard G. Les Verts qui sont quasiment assurés de retrouver l'Europe, hein, au moins avec l'Europa League. De quoi ponctuer le travail de Jean-Louis Gasset, que tout le monde salue en permanence dans le monde du foot. Sa bienveillance envers ses joueurs, notamment. On a vu les déclarations d'Yanem Villa qui a lié son avenir à celui de son entraîneur, tellement ils sont proches. Alors cette méthode Gasset, son relationnel, est-ce l'exemple à suivre? Appelez-nous au 32-16. Je sais, Willy, que t'aimes pas quand on réduit un entraîneur juste à ça.
Non,
c'est une part importante.
Mais c'est une part très importante. Je suis d'accord. J'en ai parlé pour décrire justement Klopp et Pochettino. Alors oui, ce sont des meneurs d'hommes, ce sont des leaders, ce sont des gens bienveillants. Ils ont de la gouaille, ils parlent bien, ils ont un accent un peu dans la voix et ça emmène un peu les joueurs avec eux. Mais il faut pas réduire un management à ça. Si vous avez simplement ça en tant qu'entraîneur. eh ben ça dure 3 mois et puis c'est fini. Après, vos joueurs ne vous suivent plus. Donc il y a aussi ses principes de jeu, la façon dont il est fait jouer. Il y a aussi de la façon dont il va leur parler, parce que il y a le Jean-Louis Gasset qui parle, je dirais, dans un micro, après pas dans une conférence de presse, d'avant match ou d'après match, mais il y a le Jean-Louis Gasset dans un vestiaire. Et le Jean-Louis Gasset dans un vestiaire, c'est pas le même.
Oui.
Quand il a une vérité à dire à un joueur, il sait la dire aussi. Donc tu vois, il y a pas que ça. Aujourd'hui, c'est quand on parle de management, d'abord et avant tout, il faut t'adapter à ton profil, le profil du public que t'as en face de toi, au profil des joueurs, parce que Jean-Louis Gasset, quand il arrive à Saint-Etienne, il peut pas changer l'effectif pour avoir des joueurs qui vraiment veut absolument.
Ouais, il a changé fait quand même. Mercato d'hiver. Ouais.
Ils ont fait venir des joueurs.
Bah, un Villa, que... Debuchy.
Non mais ils ont beaucoup investi. Ils ont pris des risques.
Oui.
Mais c'est tant mieux. À un moment donné, si tu prends jamais de risque, de toute façon, t'auras jamais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le manager dans un énorme groupe qui arrive, qui dit maintenant, moi, l'équipe que je veux diriger, faut que ça soit 20 personnes, je les fais venir, et puis c'est comme ça. Non. Donc tu t'adaptes aussi un petit peu. Quand tu commences à connaître aussi l'effectif, tu commences aussi à connaître les limites des joueurs, ce qu'ils sont prêts à accepter, je dirais, sur parfois le chambrage ou même la critique. Il y a certains joueurs, tu peux les critiquer autant que tu veux et devant tout le monde, ils accepteront.
On a l'impression que là-dedans, il est très bon en fait. Mais pour sentir ce genre de choses.
C'est très bien. C'est très bien. Oublions pas que quand Jean-Louis Gasset est arrivé à Saint-Etienne, il est arrivé en tant qu'adjoint au départ.
Ouais, de Julien Sablé. Ouais.
C'est vrai.
Donc il a pu avoir pendant quelques semaines aussi une sorte de rapport avec les joueurs un petit peu moins. Il a pu connaître un peu les joueurs un peu plus profondément que peut le faire un manager quand il arrive comme ça. Mais force est de constater, et puis moi je suis le premier heureux, c'est bien, ce qu'il fait c'est très bien. Après je mettrai juste un petit bémol, juste quand j'entends le petit M Villa, que j'aime beaucoup, j'adore ce joueur, il a fait des boulettes quand il était plus jeune, mais maintenant c'est pour moi c'est le meilleur joueur de la saison de Saint-Etienne, c'est le plus régulier en tout cas, juste un petit truc, quand t'as un joueur qui lit un peu entre guillemets son destin à celui de son entraîneur, non. Tu lis ton destin à ton club.
Oui, oui.
T'as signé le contrat avec ton club, pas avec un entraîneur.
C'est lui qui l'a fait venir.
Non, mais je sais. Mais oui, mais
il a fait venir.
Je sais. C'est peut-être Jean-Louis.
Il le connaissait de l'équipe de France.
C'est Jean-Louis qui a trouvé les mots pour le faire venir. Mais à un moment donné, c'est le club qui le paye. Et Jean-Louis lui a pas demandé de venir se relancer à trifouiller les oies non plus.
Le club est plus important. Voilà, même que l'entraîneur.
Exactement.
Voilà, okay.
Donc juste attention à ça.
Oui.
Mais sur le reste, c'est beau. Et puis d'avoir un Saint-Etienne qui à 3 journées de la fin se bat pour être sur le podium et jouer la Champions League, mais pour moi qui suis de là-bas, c'est extraordinaire. Moi, j'attends le match avec impatience aujourd'hui. Voilà.
Alors sur la gestion des hommes et tout, bon, c'est vrai que c'est remarquable. Sur le jeu, Ludo, Jean-Louis Gasset, ce qu'il fait avec Saint-Etienne, ça t'inspire ? Tu penses qu'il faut s'en servir aussi ou bon, il y a rien non plus de très dingue.
Non, ça m'inspire. Alors, il n'est pas décrit comme un maître tacticien, mais plutôt, tu vois, tu l'as rappelé, c'est quelqu'un qui est très fort sur l'humain. J'en ai eu la confirmation avec ses anciens joueurs, que ça soit David Bellion que j'ai eu au téléphone avant de venir avant l'émission, ou Souleymane Diawara, ou ce type de joueur, où justement, il arrive à galvaniser avec ce côté sudiste, un peu ronchon, et puis toujours cette touche d'humour. Il arrive à faire passer des messages avec force, mais toujours avec une pointe, une pointe d'humour, sa force est là. Et je crois qu'avec Laurent Blanc, tu vois, on dit toujours que Laurent Blanc on a toujours mis Jean-Louis Gasset en avant en disant que Laurent Blanc était là grâce à lui. Je crois qu'ils se sont enrichis l'un l'autre.
Ouais.
Je crois que Jean-Louis était très fort sur le côté humain, Laurent un peu plus sur le côté tactique, et qu'il a appris justement auprès de Laurent Blanc sur ce côté-là. Il le met en application à Saint-Etienne et avant, lorsqu'il a repris Montpellier déjà. Mais ce que j'aime, c'est que il a su s'adapter. Quand il a vu que cette défense à 5, à un moment donné, certes, ça a performé, mais pas assez pour aller chercher plus haut, il est repassé à 4.
Ouais.
Et ça, voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'entête pas, qui n'est pas têtu, qui accepte aussi de voir les qualités de ses joueurs, de les remettre en question. Il a su relancer un Rémi Cabella qui a eu une période difficile. Là, il revient. Je suis sûr qu'il a un rôle à jouer là-dedans.
Il a
fait jouer aussi le petit Nourdin qui lui déméritait pas. À chaque fois qu'il rentrait, il lui a trouvé une place de titulaire. Beric qui a attendu son tour pendant un moment, mais qui maintenant performe. Donc, si tu veux,
oui.
il arrive à jouer sur les deux tableaux maintenant, et Saint-Etienne, on est là aussi grâce à ça.
On a l'impression que sa force, et Lionel, on le dit de plusieurs entraîneurs là, c'est d'avoir gardé tout le monde avec lui. Parce que là, tu as cité des joueurs qui effectivement ont pas tout le temps été titulaires et tout, mais qui à un moment donné de la saison te rendent service. C'est ça la plus grande force d'un entraîneur, de concerner tout le monde.
Willy en a parlé tout à l'heure avec Klopp par exemple aussi, quand tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont pas tellement joué, et que lorsque tu les fais rentrer à un moment donné, à un moment crucial, ces joueurs-là sont hyper performants. C'est la grande force d'un entraîneur de savoir mobiliser ces joueurs-là, parce que tu gagnes, là on s'en rend compte maintenant, tu gagnes aussi avec les entre guillemets pseudo remplaçants, que ce soit dans le match ou à une période où ils se retrouvent un petit poste de titulaire, ne serait-ce que pour 3 ou 4 matchs, et ils sont déterminants. Jean-Louis, tout le monde l'a dit, Ludo, Willy, il le disait à juste titre, il sait te parler avec cette pointe d'humour, de te garder concerné tout le temps, et en plus il a cette force en plus de savoir faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs sans que les joueurs fassent la gueule, c'est-à-dire en donnant 200%, et ça c'est hyper important, parce que il va te persuader, peut-être plus qu'il ne l'est lui-même d'ailleurs, mais il va persuader le joueur qu'il va être hyper performant, il va être déterminant et tout ça, et à chaque fois et à chaque poste il est capable de faire ça. C'est un mec intelligent, qui a cette faculté d'adaptation. De toute façon,
et après il est pas seul non plus. Il est pas seul non plus. Il y a un staff, et moi aussi j'en profite pour aussi envoyer un autre coup de cœur aussi à Ghislain Printemps, qui pour moi aussi est un très bon entraîneur. C'est un vrai personnage. C'est un vrai amoureux du foot. C'est un vrai amoureux des joueurs. Et le duo ça fonctionne bien. Au début, on a douté un peu. On a dit c'est un peu les deux mêmes profils, ou c'est deux entraîneurs, c'est les mêmes générations, mais en fait, ils ont réussi à bosser comme ça, voilà, main dans la main. On met tout le monde avec eux, et il faut vraiment associer tout le monde, l'adjoint, les prépas physiques, entraîneur gardien et compagnie.
C'est ça, c'est là où t'as raison, même le magasinier, tout ça, tout le monde est concerné. Moi, je connais très bien le magasinier, le fils de Riton, il t'en parle, le mec c'est comme si c'était son grand frère, et c'est devenu un club, une équipe, et je pense que Ludo, Willy aussi, vous avez été comme moi, à chaque fois qu'il y a eu des grandes performance, on avait l'impression d'être dans la famille. On quittait notre maison pour aller dans une autre famille. Et Jean-Louis aussi est très proche des joueurs, ok, mais aussi très proche de la famille du joueur, comme les Klopp d'ailleurs. Et donc, quand tu rejoins le vestiaire, tu rentres en tant que joueur dans ta famille, dans une nouvelle famille. Et ça, c'est la charge du management, c'est la charge de l'entraîneur de faire tout ça.
Alors, pour revenir à la course au podium, comment vous voyez les choses? Est-ce que ce week-end est crucial? Il y a un point d'avance pour Lyon par rapport à Saint-Etienne. On rappelle le calendrier des deux, donc ce week-end Saint-Etienne reçoit Montpellier, c'est ce soir, pendant que Lyon sera donc à Marseille dimanche soir. Ensuite Saint-Etienne recevra Nice et ira à Angers, Lyon recevra Caen et ira à Nîmes. Willy, ça joue ce week-end là?
Forcément que ça joue déjà un peu ce week-end. On va prendre un exemple, mais ça arrivera pas de toute façon que Saint-Etienne perde ce soir et que Marseille gagne et que Lyon gagne à Marseille. Il y aura 4 points d'écart, 2 journées de la fin, sera fini.
Oui.
Mais ça n'arrivera pas, parce que déjà ce soir Saint-Etienne va gagner
en toute objectivité,
et que le grand Olympique de Marseille ce week-end aussi va faire un grand match, et on verra dans les deux derniers matchs après. Non, en étant plus sérieux,
en posant l'écharpe de supporter,
voilà, oui. On pose l'écharpe de supporter, c'est, je dirais, la dynamique actuelle est stéphanoise. Il y a un peu d'inconstance côté lyonnais, c'est un peu à raccro en ce moment.
Oui, et puis dernière fois qu'ils devaient justement être sur le podium, ils étaient en position de chasseur.
Exactement.
La saison dernière, là, il y a la pression de Saint-Etienne.
Ils pêchent quand même un peu par irrégularité, Lyon, depuis le début de saison. Quand ils gagnent des matchs, ils jouent un peu à l'arrache avec un petit but je sais même pas leur attaquant là qui marque des buts actuellement.
Terrier.
Le comique.
Il a marqué quand, il en a mis deux.
C'est vrai, parce que ça faisait 6 mois qu'il n'est pas marqué, mais bon, bref,
deux fois de suite.
Non, mais Terrier qui marque des buts, qui allait sortir un petit peu de l'impasse, mais je pense quand même qu'il y a plus de talent côté lyonnais que côté stéphanois en termes d'effectifs.
Mais actuellement
ce sont les dynamiques qui comptent dans le sprint final, et dans le sprint final la dynamique pour l'instant est stéphanoise. Donc écoute, on verra déjà ce soir, on va regarder ce match, et puis on regardera le match de Lyon aussi dimanche.
Ludo, si tu dois parier sur un des deux là, tu paries sur qui?
Écoute, c'est difficile, mais au vu de la Willy vient d'en parler, la dynamique me paraît important, dans le sens où Saint-Etienne justement performe là depuis, je crois que c'est
6
victoires en 7 matchs,
ouais, c'est ça, 6 victoires, un nul, ouais, tout à fait.
Et Lyon, malgré le match nul qui apparaît finalement un bon match nul, un bon point, de prendre un bon point contre les Lillois, moi je les ai vus très en dessous de Lille, c'est-à-dire que pour moi, dans la force collective, ça m'inquiète pour Lyon. Honnêtement, ce match nul ne tend pas vraiment à me rassurer. Et je vois, en plus Saint-Etienne, ça fait deux fois que Saint-Etienne a l'avantage psychologique parce que s'ils jouent avant,
ouais,
en plus, c'est mettre la pression à chaque fois sur les Lyonnais. S'ils battent Montpellier.
Il joue avant, à domicile.
Voilà, exactement. Ça met une pression supplémentaire. Devant, j'ai bien peur que ce soit préjudiciable pour les
Lyonnais. En plus, on en a déjà parlé. Si Lyon aujourd'hui était troisième et que le quatrième était, j'en sais rien, Marseille,
ouais,
je suis sûr Lyon résisterait à la pression et finirait troisième.
En plus,
c'est Saint-Etienne, donc. C'est dur à accepter pour les, enfin depuis, on va dire depuis 15 ans que Lyon domine sur les classements Saint-Etienne, c'est dur à accepter la situation actuelle.
Saint-Etienne finit. Et puis il y a un autre truc, Valère Germain nous l'a dit un peu tout à l'heure, les Marseillais seraient bien contents de priver Lyon de Ligue des Champions. Il nous a dit c'est une des motivations, c'est pas la principale pour dimanche soir.
Rappelez-vous les dernières,
c'est renvoyé l'ascenseur. Exactement, ils ont un esprit de revanche les Marseillais et à mon avis ça ferait plaisir aussi à leurs supporters de leur offrir cette victoire. On enchaîne avec la minute Charbot, on y va Lionel, t'es prêt ?
Allez. C'est un petit peu mon chef de bataille.
Le chef de bataille.
Mon chef de bataille ?
Oui, bien sûr Lionel. Bon, ça arrive.
Bon fils, ma bataille.
Tiens, pour te lancer Lionel, écoutez Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, interrogé aujourd'hui sur l'alternance des gardiens Buffon, Areola, annonce de l'entraîneur allemand du PSG.
C'est pas possible de continuer comme ça. C'était seulement possible parce que Gigi et Alphonse sont des gars et des personnalités exceptionnelles et parce que les deux sont vraiment une équipe et ensemble. C'est une poste très spécial, c'est une poste pour avoir confiance, pour avoir de automatisme et c'est pas possible de changer tous les deux trois matchs encore.
Bah oui Lionel, pas possible.
Bah j'avais raison, mais il a mis un an pour s'en apercevoir, pourquoi il l'a pas fait avant?
C'est vrai que c'est assez hallucinant.
C'est vrai, c'est hallucinant. Alors il le dit lui-même, hein, et en même temps, ces déclarations me font un peu peur. Mais il le dit lui-même. Il est tombé sur deux garçons intelligents qui n'ont pas fait d'esclandre, parce que je peux te dire qu'ailleurs ça aurait pu lui éclater. Enfin, ça aurait pu éclater dans le vestiaire. Non, tu peux pas faire tourner comme ça tous les deux matchs ou trois matchs ou quatre matchs. Tu sais pas. T'apprends à la collation. Tant et si bien s'il y en a une, je sais même pas, des fois il y en a même pas, que tu vas jouer, ou t'arrives dans le vestiaire, on te dit ce soir c'est toi Gigi, trois matchs après c'est toi Alphonse, et puis les défenseurs ils font quoi là-dedans, et les automatismes qui doivent se créer à travers la relation entre le gardien, sa défense et tout ça, il y a rien, tu construis rien. Moi j'étais franchement halluciné sur ce turnover. Heureusement encore une fois que les gens ont été intelligents, que ça cesse, tant mieux. Maintenant, dans quel ordre ça va se faire, je ne sais pas. Est-ce que Gigi va rester?
Oui, ça c'est, t'as raison Lionel, c'est la question. Mais l'autre question aussi, c'est comment on a pu arriver à cette contradiction? Parce que Tuchel en début d'année, il était persuadé de son truc. Il disait, la vision du poste de gardien qu'on a est peut-être un peu archaïque. On peut alterner, c'est un poste comme un autre. Enfin bon, c'est hallucinant quand même.
Parce qu'il a peut-être cru qu'à un moment donné, il y en a un qui allait prendre le pas sur l'autre. Sur les performances, sur...
Est-ce qu'il a vraiment eu le choix?
Je pense
quand Gianluigi Buffon est arrivé.
Je me demande si c'est...
Est-ce qu'il a pas... On lui a mis Gianluigi...
Non, je crois qu'il n'a pas voulu trancher au départ en se disant que les choses allaient se faire naturellement.
Sachant qu'il avait besoin des deux, puisque Buffon
était... Et que l'un allait prendre le pas sur
l'autre. Moi je suis d'accord avec Ludo.
Ce qui a jamais été le cas.
Je suis d'accord avec Ludo. Je pense qu'il a... Il a tenté un peu le coup. Il s'est dit, bon, il y en a un qui va être meilleur, donc puis ça va se faire naturellement.
Je pense qu'il n'avait pas le choix, puisqu'il y avait cette suspension de Buffon pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions.
Ouais, mais après...
Donc il a dû se dire, mon numéro un c'est Buffon, mais j'ai besoin de l'autre pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions, c'est important, je peux pas le perdre au début en installant une hiérarchie, donc on part sur ce truc.
Non, mais il a continué là-dessus.
Il a continué.
Il y a Buffon qui arrive, il y avait Areola qui était là. Areola, un jour, on lui a dit t'es titulaire, le lendemain t'es remplaçant, voilà. t'es titulaire. Ça faisait déjà 2 ans que ça durait avec, avec Trappe avant.
Il était titulaire quand même.
Moi, j'ai une question, j'ai une question à poser qui, alors qui paraît peut-être toute bête, ou on va peut-être me dire, pourquoi ta question? Pourquoi il en parle maintenant?
Oui, c'est dans sa volonté de changer les choses, de peut-être reprendre le pouvoir.
Très bien, justement. Mais pourquoi il
en parle? Non, parce que je pense que
s'il veut reprendre le pouvoir, excuse-moi Lionel, s'il veut reprendre le pouvoir, c'est pas en communiquant comme ça qu'il va reprendre le pouvoir. C'est soit il le dit à Doha, soit il le dit à Nasser, mais il le dit pas à nous. La question que je me pose, c'est pourquoi il le dit pas éventuellement dans sa conférence de presse de fin de saison ou quand ils reprennent la saison. Mais pourquoi il en parle maintenant? Est-ce qu'il y a tellement peu d'actualité? Moi, je pense qu'il y a tellement peu d'actualité en ce moment moi, je pense aussi qu'il a tellement peur qu'on lui envoie dans la gueule sa mauvaise saison et ses rapports conflictuels avec
Moi, je pense que c'est ça. Il prend les devants
et puis il envoie un petit truc. On va parler de ça. Pardon?
Non, mais ça serait très calculé.
Calculateur, mais tu crois qu'il fait quoi?
Les entraîneurs sont calculateurs.
Oui, mais c'est peut-être calculé par rapport justement à sa direction de dire attention, la dernière fois vous m'avez mis Buffon, et ben là on a bien vu que Buffon ça ne pouvait pas fonctionner, qu'il était sans doute dépassé. Donc moi mon choix va être très clair et je vais l'annoncer. Voilà.
Ouais, non, mais alors il a annoncé quoi?
Ben, il va annoncer quelque
chose. Mais il va annoncer
non,
quoi?
Non, mais François,
il a annoncé qu'il allait annoncer le départ de Buffon, qu'il n'a toujours pas prolongé.
Il a annoncé qu'il allait annoncer.
Peut-être que Buffon ne va pas prolonger suite à
Willy,
ça.
Willy, tu crois pas que, tout simplement qu'il envoie un message?
Bien sûr,
en disant, voilà, je dis ça, vous avez compris tous les deux, il y en a un qui devra
prendre. Voilà, c'est ça.
Alors ça, je peux l'entendre. Mais à un moment donné, notre ami Thomas Tuchel, faudrait peut-être qu'il arrête d'essayer d'envoyer des messages. Ben, ça fait plusieurs mois que ça dure. D'envoyer ses messages à sa direction, et puis peut-être qu'il leur parle carrément directement.
Peut-être qu'il répond
pas au téléphone. Qu'ils se mettent dans une salle, tous les trois, le président, le directeur sportif et l'entraîneur, et qu'ils disent, ah, c'est vrai qu'on travaille ensemble, pour le même club, pour la même institution. On va peut-être essayer de se mettre d'accord, les gars.
Areola, ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il refusera, enfin, il l'a accepté, là, plus ou moins, mais il refusera catégoriquement d'être numéro 2. Oui. Parce qu'il a besoin de jouer, il a besoin de progresser. Il y a l'équipe de France en ligne de mire pour être numéro 2 ou numéro 3, dans la hiérarchie. Donc, il va poser ses conditions. Il a prolongé, il me semble.
Oui.
Donc, soit il sera prêté, comme ça a été le cas à Villarreal, et il reviendra plus aguerri, parce que finalement, on a cru, en revenant de Villarreal, qu'il avait la stature et le charisme pour pouvoir s'imposer. C'est pas le cas. Ou alors,
Mais il sera pas reprêté. Il sera pas reprêté.
Ou vendu.
S'il part, c'est pour
ou vendu. Buffon accepte de, je pense pas que tu puisses faire l'année avec Buffon. Ou alors Buffon accepte d'être numéro 2.
Mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, Ludo, et pour toi Lionel, est-ce que Areola, par rapport à ce qu'il nous a montré depuis maintenant 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il mérite d'être numéro 1 au PSG?
Pour moi, oui, parce que je pense que dans le par rapport au fair play financier et tout ça, je pense que c'est pas un poste
on sort un peu du fair play financier, on sort des considérations d'argent et je t'ai demandé est-ce que lui par rapport à ses performances, il mérite d'être le gardien d'une équipe qui vise la victoire en Ligue des Champions.
C'est pas le poste primordial, donc comme c'est pas le poste primordial pour aller dans dans une future et être hyper compétitif, je pense qu'il peut être compétitif à partir en Champions League et en championnat bien entendu, à partir du moment où il sera titulaire à part entière.
Il faut le juger comme ça. Ok.
Je crois que c'est une erreur stratégique majeure. Tu le vois aujourd'hui, pour aller loin, il te faut un gardien de très haut niveau. Tu le vois durant les matchs.
Liverpool,
Hugo Lloris qui te sort
Lloris, le match du monde.
Alisson, 60 millions.
Vous parlez pas de Trapp
aujourd'hui. Areola, il fait pas partie de cette catégorie-là. Il peut.
Parce que moi aujourd'hui, quand on parle de des gens qui méritent, moi si les gars, si vous avez regardé la saison de Trapp avec Francfort, je vous dis que l'année prochaine, celui qui mérite d'être numéro 1 au PSG, c'est Trapp.
Non, on l'a vu au PSG aussi.
Bon, allez, on arrête là. Ludo, évidemment. Ça parce que tu jouais tout samedi matin Pierre, maintenant et que t'as vu ce que c'était qu'un gardien.
Bah exactement, Jean-Louis, moi je le prendrais tous les jours, Jean-Louis.
Merci Ludo. Merci
Ludo, on m'a dit qu'il fallait que je donne une paire de gants.
Si c'est pour prendre Areola, garder Areola.
Ok, oui, t'as raison. Oui, oui, s'il y a une paire de gants, je prends Lionel, bien sûr.
Ouais,
bien
on
sûr.
M'a dit qu'il fallait que je te donne une paire de gants.
Bah, des gants sans trous.
Pas les gants que tu utilisais parce que.
Tu sais que moi, je mettais du tumouche, hein.
Il glissait un peu.
Lionel, lui donne pas les gants en peau de pêche, hein, comme Fluclinger, parce que.
T'inquiète pas. Les gants en peau de pêche. Dans la soirée ce soir. On a même pas parlé de coach Willy Sagnol, qui lui jonglait avec trois gardiens, à la grande époque. Bernardoni, Prior, Carasso. Allez, rajoutez-en un quatrième et tout. C'était formidable.
Carasso, très bon gardien, Carasso.
Bah, bien sûr. Bah, Bernardoni aussi. Super.
Bien sûr, mais beaucoup plus jeune à l'époque.
Non, mais Bernardoni, super gardien ouais. d'avenir, super mec et.
Bon, Prior, on sait pas ce qu'il est devenu, mais bon.
Prior, il va quitter Bordeaux, là.
Prior,
il était encore à Bordeaux.
Non, il était encore à Bordeaux. Il avait, je crois qu'il avait été prêté dans une Ligue 2 norvégienne.
Ah, était plus compliqué non, à gérer, lui, Willy.
Légèrement. Oh, on va dire qu'il était impulsif.
Disons qu'il n'a pas la lumière à tous les étages.
Il était impulsif.
Très bien. Merci, messieurs. Ludovico Bragnac, ce soir. Merci, Ludo. Merci, Lionel.
Salut à tous.
Autour du match de ce soir, Saint-Étienne-Montpellier, on est sur place à Geoffroy Guichard, où il y a évidemment des statues à l'effigie de Willy Sagnol. À tout de suite, on va en Angleterre aussi, bien sûr.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 19h30, toujours dans Ici c'est Willy jusqu'à 20h avec toujours Jean-Louis Tour. Ça va mon Jean-Louis ?
Bah oui, avec plaisir, on est là.
Toujours, t'es toujours bien.
Régal, hein.
Et François Pinet,
toujours là aussi, présent.
Ouais, je te sens calme aujourd'hui François. Hein,
Non, parce que tu m'as pas énervé encore. Tu as dit que des choses, j'étais plutôt d'accord avec toi.
Mais attention, comme quoi hein. ça arrive.
Comme quoi, il est dans le vrai pour une fois.
Ah, mais tu vois, j'ai toujours peur, là, sur ma gauche, là, tu vois, j'ai toujours un œil qui part au cas où, toi, avec ses yeux, parfois il me regarde, c'est bizarre. Ouais. Bon, Jean-Louis, là, c'est l'heure,
hein? Du foot anglais, on va y aller dans un instant. On va aller à Geoffroy Guichard aussi.
Bah oui,
c'est magnifique. T'as pas ton maillot? Je pensais que tu ferais l'émission avec le maillot des Verts.
J'ai le caleçon. et puis le maillot, j'y rentre.
Ne le montre pas surtout.
Alors, en plus de tout cela, à 19h45, il y aura le buzzer Pinet, François.
Alors, ça bouge à Bordeaux. Willy, peut-être qu'il va revenir. Hein, je ne sais pas. Ça bouge aussi au Barça. Willy, peut-être.
Je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir à Bordeaux puisque j'habite à Bordeaux. Donc, je ne peux pas revenir à Bordeaux.
Je parlais aux Girondins de Bordeaux.
Ils sont bien là avec le nouvel entraîneur là. Ils gagnent tous les matchs.
Peut-être que Willy intéresse le Barça. Enfin voilà, je vous dirais en tout cas que ça bouge pas mal là-bas. Et puis voilà.
Et bah, très bien, ça sera dans le Barça.
Le Barça basket, le Barça handball.
Dans les autres sports ?
Non.
Ah bon. Très bien. Bon après entraîneur, tu peux entraîner dans tous les sports. Après c'est les mêmes choses, hein. C'est les mêmes ressorts et tout, non ?
Ouais.
Ça peut être un débat, ça. Est-ce qu'un bon entraîneur peut être bon dans tous les sports?
Bah, le hors-jeu en basket, c'est plus difficile.
Mais non, mais après, tu apprends les deux, trois règles et puis c'est bon.
Non, je pense qu'il y a des spécificités,
Ouais, bon.
Okay. Tu vois, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est manager dans un club du top 14 de rugby.
Ouais.
Et moi, j'avais la sensation de connaître un petit peu le rugby.
Et pas du tout.
Et en fait, je connais rien. Je suis une brêle.
Ouais, d'accord. Comme nous avec le foot, quoi. Allez, on y va. On va en Angleterre tout de suite.
RMC.
C'est que pour l'aide, la clochette, hop, Aubameyang!
Le carré VIP de Willy.
L'année où les Anglais veulent quitter l'Europe, eh bien quatre clubs anglais sont donc dans les deux finales de Coupe d'Europe. Hier, Arsenal a donc sorti Valence en Europa League en s'imposant 4-2 en Espagne. Chelsea a eu besoin de la séance de tir au but, donc on en a parlé tout à l'heure, pour venir à bout de Francfort. Donc le 29 mai à Bakou en Azerbaïdjan, Chelsea-Arsenal, la finale de l'Europa League, et le 1er juin, donc on le rappelle, à Madrid, Tottenham-Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions. Donc Julien Laurence est avec nous forcément. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Non mais toi t'es incroyable. Toi tu fais un pari, tu gagnes le pari et tu te retrouves puni à devoir inviter tout le monde.
Attends, il gagne le. Non mais attends. Écoute, il gagne le pari.
Il doit inviter tout le monde.
Julien, excuse-moi de te dire que là, je pense que ta langue a été un petit peu trop vite. Tu t'es laissé submerger par une certaine émotion, mais de dire ça, tu ne peux pas dire ça.
T'aurais dû dire vous invitez-moi jusqu'à la fin de mes jours.
Vous invitez-moi. Voilà.
C'est vous, c'est quand la date, l'heure.
Oui, t'invites au moins tout le personnel des RMC.
Alors. Bah déjà faut qu'il trouve un resto
beaucoup,
qui fasse à 50 centimes la place, hein.
Bah oui.
Mais si on réécoute, c'était les auditeurs de l'After, puisque c'était dans l'After. L'année prochaine quand j'aurai encore 4 clubs en finale des deux coupes d'Europe, cette fois ce sera avec vous et tous nos auditeurs de cette tranche.
On n'est pas invité quoi.
Bon, très bien.
Sympa.
En gros c'est ça. Mais on vous racontera.
Super Julien.
N'oublie pas que j'ai fait l'After aussi à un moment. Bon allez. Donc Julien, le triomphe du foot anglais. Alors est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça traduit quelque chose de solide selon toi?
Alors c'est la grande question, forcément. La saison dernière, ils avaient 5 clubs en 8e de finale, ce qui était déjà pas mal. C'était le pays le plus représenté. Ils en ont perdu 3 entre les 8e et les quarts, et les deux qui étaient en quart se sont rencontrés, Liverpool pardon et Manchester City. Et ensuite Liverpool est allé jusqu'à la finale. Mais il y avait donc déjà des prémices la saison dernière. Cette saison c'est exceptionnel, incroyable. Ça n'a jamais été réalisé auparavant dans l'histoire du football européen. Il faudra attendre forcément la saison prochaine pour voir si la tendance se confirme, si cette montée en puissance, si cette domination se confirme. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des signes très encourageants sur le fait que, même s'il y a eu énormément de réussites, il faut quand même le reconnaître, notamment du côté de Tottenham et de Liverpool cette saison en Ligue des Champions, il y a quand même des signes qui montrent cette montée en puissance, qui confirment cette montée en puissance de par les entraîneurs qui sont en place, de par toujours cette puissance financière, bien sûr, mais aussi de par les choix au niveau du recrutement qui sont beaucoup plus réfléchis et intelligents que parfois par le passé où les clubs anglais avaient vraiment tendance à jeter un petit peu l'argent par les fenêtres et acheter un petit peu n'importe qui à n'importe quel prix. Là, tu sens quand même que au niveau stratégique, c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent. Et puis aussi, notamment, j'en parlais hier soir dans l'after, je pense qu'au niveau, ce que les entraîneurs étrangers ont apporté, les Pochettino, les Klopp, les Guardiola aussi, c'est au niveau de la diététique et de la préparation physique, un savoir-faire que les Anglais n'avaient pas forcément auparavant, et notamment par exemple quelqu'un comme Arsène Wenger à Arsenal, et ça, je pense, c'est ce qui leur permet aussi d'être encore physiquement au top à ce moment-là de la saison, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, où ils baissaient vraiment de pied vers le mois de mars et ils avaient du mal à être à la fois compétitifs en Coupe d'Europe et en championnat.
Willy, qu'est-ce que t'en penses?
Alors moi je suis d'accord sur la dernière chose que t'as dite, Julien, sur l'apport des entraîneurs étrangers qui ont amené une certaine forme de je dirais de sérieux, de discipline dans le travail au quotidien, et notamment le travail invisible, donc la diététique, se coucher un peu plus tôt, ça j'en suis persuadé. Après je pense que, parce que on en a aussi parlé, je crois que c'est hier dans Team Duga, sur les remontadas et compagnie, on va pas commencer à juger l'évolution du foot parce que sur un an il y a eu quelque chose, il faudra attendre quand même un petit peu. De voir de toute façon des Anglais en partie dominer l'Europe par rapport à leurs moyens financiers, il y a rien de miracle, il y a rien de miraculeux, c'était même invraisemblable que ça n'arrive pas avant, parce que c'est quand même des en moyenne ils ont quand même 4 ou 5 fois plus que tout le monde, donc à un moment donné ça devait quand même arriver. D'en avoir 4 d'un coup, je pense que c'est
exceptionnel,
ça restera dans l'histoire, un truc qui arrive une fois dans l'histoire. La domination anglaise va continuer, je pense. Alors il n'y en aura pas toujours 4, parce que faut pas vous inquiéter, hein, il y a les autres clubs qui travaillent aussi, les autres pays travaillent, les Bayern, les Real, les Barcelone, ça va continuer à travailler, ça va continuer à être là, donc il faut pas tirer d'enseignement trop rapide. On peut simplement dire que peut-être les autres pays avant le Brexit ont été sympas avec les Anglais pour une fois, hein, et puis on verra l'année prochaine.
J'ai une théorie moi sur la Ligue Europa, oui. Par rapport aux clubs anglais, parce que j'ai regardé, j'ai vu quand même qu'il y avait 4 clubs anglais en finale lors des 4 dernières éditions, si tu comptes donc les 2 de cette année. Il y avait aussi Liverpool en 2016 et Manchester United en 2017. Ce qui n'était pas le cas avant, la Ligue Europa était un peu délaissée par les clubs anglais. J'ai l'impression que là, pour le coup, c'est une bonne idée de l'UEFA d'avoir rendu un peu plus d'importance, donné un peu plus d'importance à cette finale, puisque le vainqueur va en Ligue des Champions la saison d'après. J'ai l'impression que les Anglais ont vu une opportunité aussi d'aller en Ligue des Champions par ce biais-là. C'est arrivé à Manchester United, peut-être qu'Arsenal,
mais Chelsea peut-être pas, parce que quand on regarde les matchs de Chelsea en Ligue Europa, ils ont fait beaucoup tourner.
Oui, mais enfin, il y a un nouvel intérêt en tout cas d'Angleterre pour la Ligue Europa.
Est-ce que selon toi Mkhitaryan sera là avec Arsenal pour la finale à Bakou? On sait que pour l'Arménien, c'est particulier d'aller jouer en Azerbaïdjan, sachant qu'il y a un conflit entre les deux pays, et que les fois précédentes, pour éviter de lui mettre trop de pression, Arsenal s'était passé de ses service, ça a même été le cas pour Dortmund en 2015.
Exactement, c'est vrai. Donc c'est une discussion que Mickey va avoir avec le club là dans les jours qui arrivent. Ils vont laisser passer le match de dimanche, donc le dernier match de la saison à l'extérieur à Burnley, qui même si ça ne compte pour plus rien du tout. Et puis après, ils prendront une décision par rapport à son ressenti à lui, forcément. Mais je pense que c'est une finale européenne et il a envie de la jouer. Donc c'est un énorme dilemme pour lui, c'est un dilemme pour le club, et le club soutiendra son joueur à 100% sur ce que lui voudra faire aussi. Mais c'est vrai que c'est ce genre d'incident diplomatique au niveau footballistique, c'est quand même assez rare, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que cette finale, déjà le fait qu'elle soit à Bakou, c'est un petit peu controversé ici, c'est un peu polémique, parce que c'est un stade de 69 1000 places, il y a que 6000 places pour les supporters de Chelsea et 6000 pour les supporters d'Arsenal sur 70000 quasiment, ce qui est pas beaucoup. Et puis en plus c'est une galère absolue pour aller de Londres à Bakou. Et donc c'est vrai que diplomatiquement c'est assez très rare aussi de se retrouver dans ce genre de situation pour Mkhitaryan et un club comme Arsenal.
Merci Julien le King.
En tout cas félicitations Julien pour ta saison, c'est magnifique.
Allez, t'as été à la hauteur des clubs. Bravo Julien.
Mais on te rattrapera pas l'année prochaine.
Allez, on enchaîne avec la Ligue 1. C'est parti, on va à Saint-Etienne.
On part maintenant dans le midi avec un événement, c'était la récolte du thym.
Le Focus Liga.
Non, on va pas dans le midi, on va dans le Forez. Pour retrouver Edouard G qui est à Geoffroy-Guichard pour Saint-Etienne. Montpellier ce soir, 20h45. Salut Edouard.
Salut Jean-Louis.
Salut Willy. Edouard.
Salut François.
Bon, toujours pareil, hein, quand tu vas à Saint-Etienne, tu dis que tu viens de la part de Willy et tout est plus facile.
Tout remarque, est plus facile.
Toi, tu dis que tu viens de la part d'Edouard G. C'est tout, t'es aussi connu là-bas que
Edouard.
Willy.
Ah, Edouard, oui. Il va de partout en France.
Ah non, surtout
dans la région. Mais même, il va de partout en France. Mais oui.
Ah oui.
Dès qu'il arrive quelque part, c'est l'œil d'honneur.
Bon, dans ces régions,
bon, peut-être pas à Lyon, mais.
Bon, alors Edouard, pour ce soir, une ambiance, on imagine énorme. Là, quand il y a un tel enjeu de pouvoir coiffer sur le poteau les Lyonnais, on imagine la folie, non, ce soir.
Ouais, 37 000 personnes annoncées, c'est le nombre de billets émis. Alors, on n'est pas tout à fait, on n'est pas à guichet fermé. C'est vrai qu'il y a un grand concert juste à côté au Zénith, mais en tout cas, ça va largement grondé. Je peux vous dire que moi qui suis parti de Lyon et notamment d'Essine à la mi-journée, j'ai senti de la crispation là-bas autour du Groupama Stadium. Et puis plus on approche ici à Saint-Etienne, plus on passe Fezin, après Givors, après Rive-de-Gier,
plus sévère. Voilà,
et ben plus voilà, sévère. Plus sévère, plus on est serein, plus on a de la malice, tout simplement parce que.
T'as senti tout ça sur la route.
Ah ouais, tu le sens, okay. tu le sens.
T'es jamais passé par là-bas, Jean-Louis, tu peux pas savoir.
Tu peux pas savoir.
Toi, t'es toujours autour du Parc des Princes. Voilà.
Non,
il y a deux atmosphères.
Ah, c'est vrai que ça manque de verre dans le métro.
En tout cas, il y a vraiment deux atmosphères. De la crispation du côté de Lyon et puis de la sérénité du côté des Verts qui ont une finale ce soir. Alors, vous savez, vous connaissez la formule, hein. Il faut faire les matchs les uns après les autres. Bah là, on va dire que pour Saint-Etienne, bah, c'est vraiment la formule qui convient. Et c'est d'ailleurs celle qu'a utilisée hier Jean-Louis Gasset, tout simplement parce qu'il faut faire ce match de ce soir. C'est une finale pour l'Europa League. C'est comme cela que l'a décrite, Jean-Louis Gasset, mais aussi Loïc Perrin hier. On assure la quatrième place et puis après, voilà, on espère rêver un petit peu plus. Déjà de rêver de mettre la pression pour le match de dimanche de Lyon, puis après il y aura les deux matchs suivants. Voilà l'atmosphère un petit peu. On rêve ici de se rajeunir un peu parce que la dernière fois que les Stéphanois étaient en Coupe d'Europe, ah, c'était l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions, c'était en 1980, il y a 38 ans.
Ah oui.
Eh oui.
Et niveau compo d'équipe, il y a deux trois trucs à savoir.
Bah normalement du côté de Saint-Etienne, c'est assez facile hein, à définir. C'est l'équipe qui marche sur l'eau en ce moment, avec notamment Kolodziejczak, Saliba, Perrin et Debuchy derrière, avec Kazri, Beric, Rémi Cabella et normalement Arnaud Nordin. Voilà pour cette équipe verte qui est irrésistible en ce moment, 19 points pris sur 21. Mais en face, il y a aussi une équipe qui va pas trop mal en ce moment, qui a eu un trou d'air entre la 13e et la 29e journée. Mais voilà. Ça va beaucoup mieux dernièrement pour les hommes de Michel Derzakarian. Et du coup, on se dit, là aussi, c'est une finale pour l'Europa League parce que sans victoire ici même, eh bien, ce sera adieu à l'Europe. On rappelle hein, que la 5e place n'est absolument pas européenne cette année. Tout cela s'arrête à la 4e. Et du coup, voilà, pour les Montpelliérains, c'est vraiment la dernière solution. Il faut gagner pour essayer d'être européen l'année prochaine, en rappelant qu'il y a 7 points d'écart entre les deux équipes.
Merci Edouard. On te retrouve pour le match et pour l'avant-match à partir de 20h dans le RMC Football Show. Sur ce match, on parie tout de suite.
Les paris RMC.
PMU, que les meilleurs gagnent.
Christophe Payet nous rejoint, notre expert en paris sportif. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis.
Salut Christophe.
Salut François. Évidemment, on va parier sur ce Saint-Etienne-Montpellier. Alors, on va le répéter, hein, Saint-Etienne qui doit gagner ses trois matchs contre Montpellier, Nice et à Angers. Espérer que dans le même temps, l'OL sera accroché une fois, soit à Marseille, soit à Caen, contre Caen, soit à Nîmes. La forme du moment, avantage Saint-Etienne, 4 victoires consécutives. Montpellier, c'est quand même pas mal. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 6 dernières journées. 1,75 pour les Verts, 3,70 le nul et 4,60 la victoire de Montpellier qui compte 80% de défaites à Geoffroy Guichard sur les 10 derniers déplacements. Alors sur la dynamique, sur la folie qu'il va y avoir dans le chaudron, je vous propose la victoire de Saint-Etienne à 1,75. Et pour la faire grimper, bien j'ai deux buteurs. Cabella, parce qu'il a marqué 4 buts sur les 6 dernières journées. Et puis ça serait pas la première fois qu'un joueur marquerait contre son ancienne équipe. Et puis Beric, parce que lui aussi il est en forme, l'avant-centre slovène. Donc Cabella 3,90, Beric 3,30.
Sans la Willy, victoire?
Non, avec la victoire. Avec la victoire de Saint-Etienne. Willy, c'est envisageable. Oui. Que Montpellier s'impose à Geoffroy Guichard.
Non. Mais je ne sais pas même pas pourquoi question. Tu me poses la question.
Ouais, non, c'était
c'est
pour
impossible,
voir.
Impossible.
Impossible.
C'est comme.
Tu sais qu'en ce moment, impossible, comme... dans les paris foot, il faut pas le dire, hein.
Eh ben, c'est impossible que Saint-Etienne ne soit pas sur le podium en fin de saison.
Oh. D'accord.
Voilà.
Carrément. Ah,
voilà.
Tu vas être bientôt peut-être.
Elle est sur la lancée, son triplé de
journal
podcast,
moyen.
Là,
ouais.
Ah, je marche sur l'eau.
Ouais. Ah ouais,
hein,
bah,
on
oui.
va voir, ouais.
Donc, victoire Saint-Etienne, avec 2 buts d'écart, peut-être?
Non, quand même.
Non. Ah, il a proposé un seul but d'écart, 3-20.
Ouais,
allez, bien,
moi, j'ai mis avec,
avec le but de Cabella.
Le but de Cabella, ouais.
Et 3,90, c'est une belle cote quand même pour un joueur en forme.
Avec le but de Nordin.
Avec le but de Nordin, c'est 5 Nordin. C'est beaucoup mieux
coté. Il est en forme, Nordin aussi. Hein.
Enfin, il est en forme.
Quoi?
Non, tu n'as regardé que le dernier match.
Il a marqué, non, le
moi,
but
c'est
décisif.
Regarde,
voilà. Il a mis plusieurs buts. Et pour que Gasset l'installe comme titulaire, c'est qu'il récompense les hommes en
écoute,
forme. Il est très bon depuis un
Jean-Louis,
mois.
Le foot, tu sais aussi ce que c'est. Le foot, c'est une histoire. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des signes. Il y a des idoles. Regarde la cote de Perrin sur un but.
Ah, sur corner, pourquoi pas?
Oui, parce que ça lui arrive pas trop cette année, mais c'est vrai qu'il y a eu des
emblématiques,
il l'a pas noté.
Non, c'est 10 la cote.
Pas bien.
Victoire de Saint-Etienne, but de Perrin, 10.
T'imagines, Jean-Louis?
Oui, j'imagine, c'est beaucoup.
Non, moi,
tu dis pas le triplé, hein.
Au début de la semaine.
Non.
Bah non, il y a autant de chances que Perrin marque un triplé que Lucas marque un triplé à... Amsterdam.
Je sais pas, je sais pas.
Alors François,
victoire de
attends,
Saint-Etienne
ce que tu vas dire.
Avec
voilà,
les deux équipes qui marquent, voilà.
Bah ça c'est coté à 3.
Merci Christophe.
Un petit 2 hein, quoi.
rmcsport.fr pour retrouver tous les conseils de la
bonne soirée,
sur l'ensemble du week-end.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le buzzer piné avec donc des infos bordelaises à venir et puis on vous rappelle si vous avez fait le 32 16, restez proche de votre téléphone. À tout de suite. Quelle est donc la question pinée du jour sur les gardiens du PSG?
Exactement,
oui.
Bravo. Bon, c'est un petit hommage pour Jean-Louis gardien toujours d'ailleurs. Qui doit être le gardien numéro 1 au PSG la saison prochaine? Donc j'ai proposé sur le compte Twitter de RMC Sport 4 propositions. Gianluigi Buffon, 8% seulement pour l'italien. Alphonse Areola, 40%. Kevin Trapp, qui appartient toujours au PSG, 18%. Et aucun des trois, 34%. Donc Areola pour vous doit être installé au poste de numéro 1. Et sinon vous n'êtes pas non plus voilà, il y a 34% qui pensent qu'il faut tout changer.
Qu'est-ce
faut tout
dirait,
changer
Willy
pour
entre 40% et 34%, il y a pas beaucoup de différence. Je pense que les gens, non, je pense que par rapport à Trapp, les supporters parisiens, ils ont vu, ils ont goûté, et puis même s'il a fait une superbe saison avec Francfort.
Ouais.
Bah voilà, c'est terminé.
Ouais,
Buffon, quand on est arrivé, on nous a dit mais non, vous inquiétez pas, Buffon n'est pas cramé, il a encore des bras de 4 mètres. Et bah finalement, bah si. Donc finalement, il reste Areola ou c'est un autre qui arrivera. Mais je sais pas, c'est.
Mais est-ce que le PSG trouver un autre gardien pour franchir un palier?
Ça fait 4 ans que ça dure.
Areola, on l'a vu en Ligue des Champions.
Mais ça fait 4 ans que ça
dure. Il a joué les 3 premiers matchs là, et puis surtout, il était titulaire en Ligue des Champions.
Ouais, mais ça fait 4 ans que ça dure, ces problèmes avec les gardiens, j'ai l'impression que c'est pas fini.
Bon, très bien. Jean-Louis, t'as pas d'avis?
Ah si, bien sûr que si.
Ah si, bah vas-y.
Tu veux mon avis?
Oui, j'ai le spécialiste
du poste. Alors moi, je dirais autre.
C'est pour ça.
J'irais autre, mais ça dépend de quel autre en fait.
Ah,
mais je pense que dans l'idéal c'est autre et un gardien.
Un cador.
Ah oui.
Quitte à payer à mettre beaucoup d'argent.
Bah oui. Parce que pour faire simple, Buffon, t'as raison, on est sur la fin. Trapp, on a déjà vu. Et le seul bémol ce serait Areola à tenter sur une saison où il est vraiment installé et tout. Mais bon, même si je trouve que techniquement il est remarquable, Areola, j'ai peur que dans la mentalité on n'ait pas un gardien de très haut niveau.
Voilà.
RMC jusqu'à 20h. Ici, c'est Willy.
Allez les amis, 10 dernières minutes d'ici c'est Willy sur RMC. Là c'est l'heure du buzzer piné.
Ouais.
Et Jean-Louis, on va rappeler nos éditeurs au 32-16.
Exactement, si vous avez fait le 32-16 depuis 18h, on peut vous rappeler pour revenir sur le débat de votre choix, mais tout de suite on va réagir sur les infos de François Piné, c'est le buzzer.
Avec ce qui se passe à Barcelone, avant de parler de Bordeaux, et peut-être donc d'un retour de Willy, je garde le suspense d'abord au Barça, puisqu'il y a le cas du coach Valverde qui est en suspens, jusqu'à la finale de la Coupe du Roi, d'après la presse espagnole. Donc la presse qui d'ailleurs liste les changements à venir, d'après le quotidien Sport, Coutinho va partir, Umtiti est transférable, Rakitic est mis en vente et l'Inter est intéressé. Et du côté des recrues, on reparle fortement en Espagne aujourd'hui d'Antoine Griezmann. Rien de vraiment neuf, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé par rapport à ce qu'on vous a dit sur RMC depuis plusieurs semaines, mais quand même, depuis l'élimination de la Ligue des Champions, il semble que le staff technique du Barça soit d'accord pour faire venir Antoine Griezmann. Ils avaient visiblement encore des doutes pour 120 millions d'euros, qui est le montant de la clause libératoire jusqu'à début juillet.
La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Lionel Messi le veut ?
Bah visiblement, bon après on parle
parce du
staff.
À Barcelone,
si les négociations reprennent,
c'est comme ça que ça marche.
On continue, c'est que Lionel Messi a dit OK ou en tout cas n'a pas dit non. Mm-hmm. Et donc Griezmann.
Bah je sais pas, Griezmann.
Non toi ça te.
Si mais.
Quand on a vu le Barça.
Mais je vois pas Messi, Griezmann, Suarez.
Ah oui.
Par exemple. Ouais. En termes de
complémentarité.
J'ai du mal. Après, je me suis trompé un paquet de fois, hein, donc je peux me tromper encore une fois.
Que Suarez était un peu fatigué aussi. Hein.
Mais pour remplacer Suarez, oui.
D'accord.
Alors Bordeaux, qui prépare donc la saison prochaine. Hier, on a appris la signature de Mecher, le défenseur rennais pour 4 ans.
Il était gratuit.
Ouais, il était gratuit. Il était. En
j'ai pas voulu la faire. Je l'ai fait en off. Faut qu'on le sache.
Oui. Mecher peut être gratuit.
Voilà. Tout à fait. Il était en fin de contrat. C'est pour ça qu'il était gratuit. Il est arrivé il y a 5 ans. Voilà, Mecher, bonne recrue pour Bordeaux.
Alors, on va dire une chose, c'est que Mecher, ça faisait 4 ans qu'il était à Rennes.
Il a vécu
4 saisons très difficiles. Et dans sa dernière année de contrat, avant de prolonger ou de partir ailleurs, il a été meilleur. On peut se poser des questions. On peut simplement dire, oui, il a fait une super saison.
Oui, mais on peut avoir des réserves.
Alors, les Girondins qui ont décidé aussi de ne pas prolonger un joueur que tu connais bien, Jaroslav Plazil, qui est resté, lui, 10 ans à Bordeaux.
La locomotive tchèque, elle s'arrête.
Eh oui, le contrat arrive à son terme, 37 ans, qui pourrait intégrer le staff de Paulo Sousa. En tout cas, c'est lui qui en a parlé en disant que c'était un des joueurs les plus professionnels qu'il avait vu. Tu confirmes, toi qui l'as coaché?
J'ai pris du plaisir à travailler avec Jaroslav Plazil.
J'avais cette impression là aussi.
Moi aussi j'avais l'impression que tu disais qu'il était pas si professionnel.
Oui, mais je pense que c'est ça qui.
Le problème de Yaro, c'est qu'il pouvait se permettre certaines choses parce que voilà, un métabolisme, bonne chose, donc il pouvait se permettre certaines choses. Et malheureusement, il y avait des jeunes joueurs qui essayaient de faire comme lui.
Et alors, sinon, au-delà de ça,
sur le jeu, je pense qu'il a une bonne réflexion sur le jeu.
Plus important.
Après, c'est toujours pareil, c'est comment tu le transmets aux joueurs.
Ouais, bien sûr.
Et c'est là où t'es jugé, c'est sur ta capacité à transmettre ou pas un bon message.
Alors, un petit mot de l'Olympique de Marseille.
Donc pas de retour de Willy à Bordeaux.
À moins qu'il confirme ça ce soir.
J'allais ce week-end, je pensais qu'on allait verrouiller ça, et puis apparemment, non.
Peut-être que t'es sur le Barça, du coup, puisque je t'ai annoncé que Valverde allait peut-être partir.
Il y a peut-être Antoine, tu vois, qui va parler pour moi là-bas.
Antoine Griezmann.
Ouais, peut-être.
Ah oui, c'est ça. Rudy Garcia, qui a trouvé la solution pour sauver l'OM. En conférence de presse, il était en conférence de presse à deux jours de la réception de
l'OM. De quoi?
La fin de saison un peu difficile. Alors, il a admis quand même en conférence de presse qu'il vivait l'une des saisons les plus compliquées de sa carrière, et il a aussi trouvé la méthode pour sauver l'Olympique de Marseille. Il a expliqué qu'hier, il ne s'était pas entraîné, que le groupe ne s'était pas entraîné. Ils ont fait une sorte de team building, c'est ce que raconte Rudy Garcia. Tout ce qui donne de la cohésion entre les hommes, ça peut être important, surtout dans les moments difficiles. On peut voir des leaders se révéler. Cette séance nous servira aussi pour dimanche, pour le match contre Lyon, et pour le reste de notre carrière.
C'est quoi du team building?
Ça marche, le team building. Tu fais de l'escalade avec tes copains.
Tu fais ce que tu veux, tu peux faire de l'escalade, tu vas faire du kart, tu fais des ateliers.
Là, tu le fais au mois de mai, hein?
Non, généralement, tu le fais en début de saison. Pour mettre de la cohésion. Après, tu peux le faire aussi dans des périodes de crise, mais la période de crise de Marseille, elle est passée, c'est plus une période de crise. Et après, oui, je suis d'accord. C'était une saison très difficile pour lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rudy Garcia. Il en a pris plein la gueule toute l'année. Et puis je suis persuadé, comme ses joueurs, il a juste envie de sauver un petit peu les meubles jusqu'à la fin de saison et puis prendre des vacances, récupérer, puis de revenir plus fort l'année prochaine.
Bon, il y a une conférence aussi de presse de Luis Gustavo qui a été pas mal. Vous pouvez voir quelques extraits sur le site amcsport.fr. Un petit question pour un champion pour finir.
Bien sûr, avec voilà. Plaisir. Pourquoi
oui, ça tombe comme ça.
T'as pas le jingle
ça
en même temps
du ciel. Non, mais tu peux me faire la musique si tu veux. Attention, c'est parti. J'ai gagné la Ligue des Champions et la Liga avec le Barça, mais aussi la Première Ligue avec Manchester City. J'ai remporté mes premiers titres en Grèce avec l'Olympiakos avant de jouer en France à l'AS Monaco. J'ai été entraîné par Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Roberto Mancini et Laszlo Bologna notamment. J'ai joué avec Messi et François Modesto, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, auteur de 96 buts dans ma carrière. Je suis un milieu de terrain ivoirien de 35 ans.
Yaya Touré.
J'ai mis officiellement un terme à ma carrière aujourd'hui. Je suis Yaya Touré, exactement, qui a mis donc un terme à sa carrière aujourd'hui.
Merci Julien.
Et qui dispose
un petit air de Julien Le Père
en Russie
en plus.
Et en Ukraine. Je le prends comme un compliment.
Ah bah là tu peux.
Toujours rêvé de
là,
faire
tu peux,
une sommité. Voilà.
T'es fou, Julien Le Père.
Il manque un peu de rythme peut-être.
Oui, mais c'était pour
la façon de poser la question, mais il ouais, y a quelque chose à faire.
Ah, et puis il a écrit pour le plaisir, donc.
Exactement.
Voilà, c'est
pour le plaisir.
Voilà, on termine donc par ce question pour champion. Ouais, c'est problème. Et voilà, c'est bon, ça arrive, c'est comme ça. C'est
non, fini. Mais c'est aussi pour donner une info. C'est une façon différente de
oui,
donner une info.
Oui, merci, j'avais compris. Merci, François.
Parce qu'il y a une info derrière.
Mais c'est bien, il y a de la recherche, Jean-Louis.
La créativité,
il essaye, voilà.
Ne bridons pas sa créativité, t'as raison.
Exactement.
Le RMC Football Show tout de suite, Christophe Cessieux, la Ligue 1. Salut Christophe.
Bonsoir, messieurs, c'est vrai, vous avez des belles têtes de champion. Quand même, hein, des belles têtes de vainqueurs. Hein,
ouais, c'est vrai, merci.
Il faut pas le prendre comme
non, un. Non, je crois pas non plus, mais bon.
Mais si. Il n'y a pas que de la Ligue 1 ce soir.
Ah non, bah, il y a la Ligue 2, bien sûr.
La Ligue 2 avec l'avant-dernière journée. Peut-être Brest rejoindra-t-il Metz ce soir. Et puis, on va s'intéresser également aux équipes en lutte pour le maintien en Ligue 2. Évidemment, la Ligue 1 et ce choc entre Saint-Etienne et Montpellier. Et puis, un peu de rugby. Jean-Louis, il y a quoi en rugby, à ton avis?
Alors, Clermont-La Rochelle.
Bravo.
Flavien me l'a soufflé.
Heureusement clairement, que
c'est quoi, merci les mecs en régie.
La finale du Challenge européen.
Oh,
Challenge Cup. Bah, c'est quoi? C'est la Ligue Europa du rugby. Non, mais attendez, arrêtez de dévaloriser ces compétitions, quoi.
En plus, des clubs français en Coupe d'Europe.
Et en plus, voilà.
Les joueurs sont nuls.
C'est vrai.
Deux Français. Bah, on est sûr d'avoir un champion d'Europe français.
Excellent.
C'est pas le cas en foot. Mais bon, on va vivre ça ce soir. Donc, tous les matchs qui débutent à 20h45.
Parfait. Bon week-end. Bon week-end, Willy.
Bon week-end. Eh bah, bon week-end à tous. Et puis, allez les Verts.
Oui, si tu veux.
Allez, si, allez les Verts.
Ciao.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.